Alors la dernière fois, donc dans l'évangile de Marc, on s'était arrêté avec ce verset qui est un verset clé, hein, vraiment de tout l'évangile, où Jésus dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour le salut de beaucoup. C'est vraiment le cœur de l'évangile. Il a servi et il a montré à ses apôtres, à ses disciples, que le plus grand, c'est celui qui sert comme un esclave. Lui-même s'est fait le plus grand, puisqu'il a servi jusqu'à donner sa vie. Et bien là, dans la suite du texte, il continue son enseignement après l'exhortation aux disciples de se rendre serviteurs. Il va leur apprendre à quoi faire. Il va leur apprendre à demander. À demander pourquoi ? Pour mieux leur donner. À demander pour mieux leur donner. Le titre de mon message que j'ai donné à mon message, c'est « Mendiant de l'amour ». Mendiant de l'amour. Et donc, je vous invite à prendre dans l'évangile de Marc, le chapitre 10, là où on s'est arrêté la dernière fois. Chapitre 10, à partir du verset 46. Et je lirai jusqu'au verset 25 du chapitre suivant. Oui, c'est ça, du chapitre 11. Donc, Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Chapitre 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. » « Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Ils s'en allèrent, trouvèrent un ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous et pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent « Comme Jésus l'avait dit. » Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit « Que jamais personne ne mange plus de ton fruit !» Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et chercha les moyens de le faire périr. Ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il y arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. La vérité centrale qui m'est apparue dans ce passage, c'est celle-ci. La foi en Jésus le Messie fait de nous des mendiants, comblés de son amour. La foi en Jésus le Messie fait de nous des mendiants, comblés de son amour. C'est ce que je vous propose de voir en trois points. Le premier, ça sera que, eh bien, la foi, la vraie foi, demande avec insistance, persévérance et précision. Ce sera mon premier point. Le deuxième point, ça sera que le manque de foi produit la stérilité. Et le troisième point, ça sera que le pardon enlève les obstacles à la prière de la foi. La foi qui peut alors porter du fruit et déplacer des montagnes. Il faut le pardon. Alors mon premier point, la foi demande avec insistance, persévérance et précision. Ici commence donc le récit de la dernière semaine de Jésus avant sa crucifixion. Avant son entrée triomphale à Jérusalem, eh bien, il est passé par Jéricho, et en sortant de Jéricho avec ses disciples, voilà qu'un mendiant, qui plus est aveugle, a attendu qu'il passait par là, qu'il passait là où lui était assis, nous dit le texte, il était assis. Et voilà qu'il crie vers lui, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Il est aveugle. Donc il n'a vu aucun miracle. Il a juste entendu parler de lui. Mais contrairement aux pharisiens qui voient de leurs yeux, qui ont vu les miracles, lui, il voit avec son cœur, avec les yeux de son cœur. Il a cru en Jésus comme le fils de David, c'est-à-dire comme le Messie. Fils de David, c'est le titre qui s'applique au Messie. Alors, certains veulent le faire taire, et devant ceux qui veulent le faire taire, lui, il ne se laisse pas décourager, il va manifester une foi insistante, persévérante, au point d'appeler Jésus pour la deuxième fois en criant « Fils de David, aie pitié de moi !» Et ceux qui lui ont dit de se taire vont changer et vont lui dire « Prends courage, il t'appelle. » Changement complet. Jésus, il est en route vers Jérusalem, il sait vers quoi il va vers la croix, il est déterminé à y aller. Et pourtant, il va se laisser arrêter par un seul homme, un mendiant, qui semble insignifiant. Il va prendre le temps avec lui. Il va se laisser arrêter par le cri de détresse de cet homme. Et ce matin, il nous a été lu, parce qu'elle a lu le psaume 34, comptez le nombre de fois où le mot détresse apparaît. Et la promesse que Dieu répond aux détresses, à toutes les détresses. Il répond à la détresse. Jésus a répondu, il n'a pas peur de perdre son temps. Il n'a pas peur de perdre son temps. Même s'il a un rendez-vous urgent. Et la croix n'attendrait pas. Il répond à la détresse. Jésus est toujours à l'heure, il n'est jamais stressé. Alors, si nous parfois nous le sommes, regardons à Jésus, je crois qu'il veut nous aider à trouver la paix et laisser le stress, parce qu'il est au contrôle. Jésus s'arrête donc, et suite à l'appel de Bartimée, Bartimée a appelé Jésus, et bien Jésus l'appelle à son tour. Jésus appelle celui qui l'appelle et lui demande « Que veux-tu que je te fasse ?» Ça semble évident, il est aveugle. Tout le monde connaît la réponse. Jésus la connaissait, bien sûr. Mais que voulait Jésus en lui posant cette question ? Il voulait que Bartimée formule sa requête. Il la formule audiblement et précisément. C'était la même question que Jésus avait posée à Jacques et Jean. Que voulez-vous que je vous fasse ? Est-ce que nous voulons que Jésus nous fasse ceci ou cela ? C'est le premier préalable à notre exaucement. Est-ce que nous le voulons vraiment ? Est-ce que nous voulons nous en sortir de tel ou tel problème ? Est-ce que nous voulons lui demander précisément et lui exposer précisément notre requête ? Jésus, en posant la question à Bartimée, eh bien, a tendu la perche à Bartimée. Et Bartimée, eh bien oui, il va répondre très clairement. Bartimée voulait recouvrer la vue. Bartimée ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Bartimée n'était pas le jeune homme riche dont on venait, qu'on a vu un peu avant. Contrairement au jeune homme riche qui aimait trop ses richesses, lui, Bartimée, il n'a rien. Il est mendiant parce qu'il n'a pas le choix. Mais il ne veut pas se complaire dans sa mendicité, comme quelqu'un qui ne veut pas travailler. C'est différent, là. Aussi, Bartimée a une autre attitude que les disciples. Contrairement aux disciples qui se disputaient pour savoir qui était le plus grand, le souci de Bartimée, c'était pas d'être le premier. C'était pas d'avoir plus d'argent. Le souci premier, c'était non pas de voir des miracles. Le souci premier de Bartimée, c'était de voir, tout court, tout simplement. De voir de ses yeux. Alors Bartimée, eh bien, il appelle Jésus Rabouni. C'est plus fort que Rabbi. Rabbi, c'est... Les disciples appellent Jésus Rabbi, maître. Rabouni, ça veut dire Seigneur. Qui montre bien que Bartimée avait la foi en Jésus. Il avait cru en Jésus, reconnu pour qui il est, le Messie, le Fils de Dieu. Bartimée a la foi. Et le modèle, Bartimée nous laisse là un beau modèle de prière. Prière persévérante, insistante, précise, avec foi. Voyons-nous comme des mendiants face à Dieu. Nous ne sommes que des mendiants face à Dieu. Tout vient de lui. Mais voyons-nous comme des mendiants de l'amour, notre premier besoin. Des mendiants de l'amour à qui Dieu se plaît à répondre. Jésus, face à la persistance, à la persévérance et à la précision de Bartimée, va l'exaucer. Et vous avez remarqué sa réponse, il lui dit pas « Vois ». Il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Et vous avez remarqué aussi, contrairement au jeune homme riche, Jésus n'a pas demandé à Bartimée de tout vendre. C'est pas ça qui sauve, non. Il a pas demandé à Bartimée de tout vendre et de le suivre, comme pour le jeune homme riche. Et pour cause, il est mendiant. Non, Jésus, il a sauvé Bartimée avant de lui redonner la vue. Parce que Bartimée n'avait rien d'autre que sa foi. Comme un enfant. Résultat, eh bien, d'un bond, il se lève. Il sera plus assis au bord du chemin, mais il sera sur le chemin, à suivre Jésus. Le besoin de Bartimée le plus grand, c'est le même que nous tous. Être sauvé de nos péchés. Par la foi en Jésus-Christ, pour ensuite le suivre. Alors, c'était la dernière fois où Jésus passait par Jéricho, parce qu'il allait à Jérusalem avant sa crucifixion. C'était la dernière fois. Bartimée avait entendu parler de lui. Alors, il était temps pour Bartimée de l'appeler. C'était la dernière fois où il passait par là, Jésus. Et si parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui n'ont pas encore accepté Jésus, eh bien, saisissez l'occasion tant qu'il est temps. Comme avec Bartimée, eh bien, Jésus appelle ceux qui l'invoquent. Il appelle ceux qui l'invoquent. Appelle-le, il t'appelle. Il appelle ceux qui l'invoquent et qui reconnaissent que sans lui, on ne peut pas sortir tout seul de son péché. Et voilà cette belle promesse dans l'Épître aux Romains, Romains 10, verset 13. Promesse. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. On peut mettre son prénom à la place de quiconque. Alors Jésus a guéri un aveugle. Et la guérison des aveugles et des sourds aussi, c'était typique de ce que viendrait faire le Messie d'après les prophéties. C'était une guérison typique de la venue du Messie, la guérison d'un aveugle, comme la guérison d'un sourd aussi. Selon Ésaïe 35, versets 4 et 5, vous pouvez noter la référence, 35, 4 et 5. Ésaïe 35, 4 et 5. Alors vous vous rappelez, auparavant, Jésus avait tenu caché aux foules qu'il était le Messie. Il avait caché en Israël qu'il était le Messie. Mais maintenant, le temps était venu de le montrer ouvertement qu'il est le Messie. Il ne se cache plus maintenant parce qu'il arrive à la fin de son ministère terrestre. Et une prophétie de l'Ancien Testament, Zacharie 9:9, disait que le Messie devait venir monter humblement sur un ânon, le petit d'une ânesse. Autre prophétie de l'Ancien Testament qui allait s'accomplir. Jésus était si pauvre qu'il dut emprunter l'animal sans le prendre de force. Sans le prendre de force. Que va-t-il faire? Il va envoyer deux disciples pour aller prendre un ânon attaché sur lequel personne ne s'était encore assis. Ça veut dire que l'ânon, il n'avait pas encore été dressé. Et Jésus leur dit bien les consignes à ses disciples. La seule réponse à donner, si on leur demande pourquoi ils prennent ainsi l'ânon, c'était « Le Seigneur en a besoin ». Ce n'était pas du vol. Le Seigneur, il est le créateur de tout, tout lui appartient. Et donc, il est le propriétaire de l'animal. À un carrefour, donc, il trouve l'ânon attaché, comme Jésus le leur avait dit. Et les propriétaires, donc, les voyant prendre l'ânon, eh bien, ils le laissent partir. Ils laissent partir les disciples. Les disciples qui ont répété exactement les paroles que Jésus leur avait dites. Exactement les paroles que Jésus leur avait dites. Jésus s'assit dessus, l'ânon ne rua pas. Il ne rua pas comme un ânon qui n'a jamais été monté. Preuve que Jésus est bien le maître de sa création. Le Seigneur, c'est lui. Et la parole du Seigneur dans la bouche des disciples a eu son effet. Jésus leur a conféré son autorité. Et c'est encore le cas aujourd'hui. N'hésitons pas, comme les disciples, à citer la parole de Dieu fidèlement, sans la transformer. Elle aura son effet. Elle aura son effet. Mais tous n'ont pas la foi. Mon deuxième point, le manque de foi produit la stérilité. Le manque de foi produit la stérilité. Voilà donc Jésus qui entre à Jérusalem et une foule en liesse l'accueille, l'acclame. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette foule pensait qu'il viendrait à ce moment s'asseoir sur le trône de David. La foule crie « Hosanna ! » Hosanna, ça veut dire « Sauve-nous maintenant, sauve-nous maintenant. » Mais la suite du récit va montrer qu'ils attendaient un autre Messie. Ils attendaient un Messie politique, un Messie révolutionnaire qui les délivrerait de l'oppression de l'occupant romain. Et ça, la foule ne l'avait pas vu comme ça. L'ânon, c'est certainement pas un cheval de guerre. La foule n'avait pas compris que le but du Messie n'était pas de briser la puissance de Rome, mais de briser la puissance du péché. Voilà Jésus qui entre dans le parvis du temple, le parvis qui a été transformé en véritable marché. Jésus promène les regards de tous côtés, verset 11, comme pour se demander, suis-je bien ici chez moi ? Jésus, après avoir tout considéré, se retira à Béthanie. Et il savait déjà ce qu'il allait faire, mais pas tout de suite. Il savait ce qu'il allait faire le lendemain. Et vous savez ce qui a suivi. Je vais y revenir. Il a chassé les marchands du temple. En tout cas, Jésus n'a pas agi là sur le vif. Il était très contrarié, mais il n'a pas agi dans la précipitation. Il n'a pas jugé hâtivement. Mais Jésus a jugé en connaissance de cause. Il a regardé, il a tout vu. Et nous aussi, c'est aussi un exemple, bien sûr, qui est notre exemple pour nous tous. Parfois, on peut être contrarié par quelque chose ou quelqu'un, et on a tendance à juger, et puis on... Mais Jésus, là, n'a pas réagi sur le vif. Il a attendu le lendemain. Et parfois, il est bon de prendre du recul, pour nous en tout cas, et de prier, bien sûr, avant de vouloir régler un problème. Jésus va le régler, le problème. Le lendemain, donc, Jésus revient de Béthanie vers Jérusalem. Et le texte nous dit qu'il eut faim. Et il aperçut un figuier de loin. Alors il s'approche. Et que voit-il? Il voit une abondance de feuilles. Mais pas de fruits. Pas de fruits. Pas de fruits visibles. Alors, Jésus se met en colère. Au point de maudire ce figuier. Et on peut s'interroger, le texte nous dit que c'était pas la saison des figues, c'était pas la faute du figuier, en tout cas c'était pas la saison des figues. Pourquoi cette colère chez Jésus envers ce figuier? Est-ce que Jésus a eu un moment de colère, il a passé sa colère sur ce figuier? Non, le Jésus que nous connaissons n'est pas celui-là. Il ne réagit pas à vif, il ne réagit pas de façon impulsive. à passer sa colère. Comme ça. Non, ce figuier, il est lourd de sens. D'habitude, en Israël, les figuiers produisaient du fruit avant la saison. Ils produisaient du fruit précocement, avant que vienne la saison des figues. C'est-à-dire, bon là, on était à l'époque de Pâques, hein. Mais quand même, on était habitué à voir sur les figuiers des figues avec beaucoup de feuilles. Et s'il n'y avait pas de fruits précoces sur l'arbre, c'était le signe que l'arbre n'en porterait pas non plus après, lorsque ça serait la saison des figues. L'arbre était devenu stérile. Alors la colère de Jésus sur ce figuier, elle préfigurait celle qui allait suivre immédiatement après, peu de temps après, sur les marchands du temple. Jésus avait faim. Il avait faim physiquement, oui, mais pas seulement physiquement. Il avait faim aussi du fruit de la nation d'Israël, qui ne venait pas. On pouvait voir extérieurement une abondance de fruits, de feuilles, pardon. On pouvait voir extérieurement une abondance de feuilles, comme l'accueil enthousiasme que la foule a réservé à Jésus, qui criait « Hosanna au fils de David ». Mais je me souviens, il y a longtemps, lorsque j'avais enseigné les enfants, une leçon qui parlait justement de cet épisode-là. Et puis un enfant est venu me poser la question après. Il m'a dit, mais pourquoi la foule a acclamé Jésus avec autant de joie, et pourquoi quelques jours après, ils l'ont crucifié, ils ont crié, crucifie-le, pourquoi un tel changement? Un enfant a eu la présence d'esprit, le bon sens, il s'est posé la bonne question. Oui, l'homme, il est changeant, il est versatile. C'était ça le problème. Les feuilles sont l'image d'une belle religion, visible de loin. Le figuier, il était visible de loin. Mais quand on s'approche, quand on creuse, il n'y a rien. Beaucoup de blabla, beaucoup de professions des lèvres, beaucoup de promesses non tenues, beaucoup d'inconstance, de versatilité. Et pas de fruits concrets visibles en Israël à ce moment. Ça restait un élan du cœur superficiel. Si Israël ne portait pas de fruits à ce moment, il n'en porterait pas non plus après. Ça nous donne aussi à réfléchir à nous en tant qu'Église. Jésus, donc, après avoir passé sa colère sur ce figuier, se met à nouveau en colère. Juste après, cette fois sur quoi? Non plus sur quoi, mais sur qui? Sur les marchands du temple. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient fait un bureau de change. Un marché pour les animaux à sacrifier. Alors que l'Ancien Testament, Ésaïe 56, verset 7, que Jésus cite, dit ceci, « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Au lieu de cela, ils en avaient fait quoi? Ils en avaient fait une caverne de voleurs. Caverne de voleurs, c'est une expression que Jésus a reprise de Jérémie 7, 11, que je vous lis. « Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ?» Ces gens qui étaient tous attroupés là devant le parvis, ils n'étaient pas en train de prier, ils ne demandaient pas. Ils voulaient faire de l'argent par leur trafic. Au lieu de demander à Dieu dans la prière, ce peuple n'est pas prêt à donner, ni à croire. Il est versatile, il est changeant. Il veut un libérateur. Mais pourquoi? Il veut recevoir un libérateur des Romains. Quelqu'un qui les libérerait du joug des Romains, pourquoi faire? Pour mieux marchander, jusqu'à voler. Et toujours avoir plus d'argent, quitte à utiliser la religion, le culte de l'Éternel. Et ça, Jésus ne le supporte pas. Avec le zèle du parfait serviteur qui le dévore, il chasse sans ménagement les vendeurs, allant même jusqu'à interdire le transport des objets à l'intérieur du temple. Il a fermé l'accès du temple à ceux qui voulaient vendre leurs objets. Et je crois que c'était la deuxième fois qu'il purifiait le temple. L'évangile de Jean, au début de l'évangile, on voit déjà Jésus se mettre en colère après les marchands du temple, où il se fait un fouet. C'était au début de son ministère. Et ici, dans l'évangile de Marc, c'est à la fin de son ministère. Eh bien, cette colère va valoir à Jésus la haine mortelle des religieux, qui avait déjà commencé d'ailleurs, auparavant. Mon troisième point. Le pardon enlève les obstacles à la prière de la foi, qui peut alors porter du fruit et déplacer des montagnes. Jésus a donc maudit ce figuier qui représente Israël. Et c'est frappant, et toutefois c'est le seul miracle où Jésus maudit au lieu de bénir. On ne voit pas Jésus maudire les gens. C'est le seul miracle où Jésus maudit au lieu de bénir, où il détruit au lieu de restaurer. Et vous avez remarqué, et ça c'est vraiment le point central, et c'est même la pépite de ce texte, il ne maudit pas Israël, mais il maudit le figuier qui représente Israël. Il s'adresse à l'objet. Jésus ne maudit pas les gens. D'ailleurs, le reproche fait au figuier peut s'adresser non seulement aux Juifs, mais aussi à tout chrétien qui parle et qui n'agit pas. Inconstant. Voyons donc la colère de Jésus contre les marchands du temple. C'est un jugement. Ce n'est pas une malédiction. Le jugement d'Israël, Israël aura un jugement. Le jugement d'Israël, et je précise, non pas sa malédiction, ça sera celui de la destruction de Jérusalem par les Romains en l'an 70. Il y aura un jugement. Mais toutefois, n'en concluons pas que Dieu en avait fini avec Israël. Dieu n'a pas rejeté son peuple. L'apôtre Paul le dira. Et Dieu restaurera Israël à la fin des temps. Jésus et ses disciples repassent donc le lendemain. Et le lendemain, que voit-il ? Eh bien, le figuier maudit avait séché jusqu'aux racines. Le figuier maudit avait séché jusqu'aux racines. Pierre était stupéfait de la rapidité de l'accomplissement des paroles de Jésus. Bien sûr que là, on comprend mieux. Jésus voulait donner un enseignement à ses disciples et à nous aussi par ce figuier. Un enseignement sur quoi ? Sur la prière. En utilisant cette illustration du figuier maudit, Jésus veut enseigner ses disciples et nous sur l'efficacité de la prière. La prière, déjà, la première chose à considérer, je l'ai déjà dit, je le redis, hein, la première chose à considérer, c'est que nous ne sommes que des mendiants face à Dieu. Il était là avant nous, tout lui appartient. Il ne nous doit rien. Tout lui appartient et pas seulement l'anneau. À nous donc de lui demander. Il faut lui demander avec foi, comme qui ? Comme l'a fait Bartimée. Comme l'a fait Bartimée. C'est ce que Dieu veut, que nous lui demandions. Il y a deux conditions à l'exaucement que Jésus met en avant. Ces deux conditions, ce sont d'avoir la foi en Dieu et le deuxième, le pardon à autrui. Ce sont deux conditions à l'exaucement, la foi en Dieu et le pardon à autrui. Revenons à ce figuier séché. En voyant le figuier séché, Jésus ne dirige pas l'attention vers son propre pouvoir. Il a fait des miracles. Jésus ne cherche pas à attirer l'attention sur son propre pouvoir pour impressionner. Non. Jésus veut attirer l'attention sur Dieu et la foi en ses promesses qu'il tient toujours. Celui qui lui a répondu est prêt aussi à nous répondre, à répondre à nos prières faites en son nom et avec foi. Ce livre que je tiens, il regorge de promesses magnifiques. Et on peut s'appuyer dessus. Et pour connaître ces promesses, que faut-il ? Il faut le lire. C'est ça qui va nous donner du courage, de la foi. L'importance de la lire quotidiennement, cette parole, pour connaître les promesses, ces promesses. Et alors, lorsque nous prions, nous pourrons rappeler, entre guillemets, à Dieu ses promesses. Lui rappeler, non pas qu'il les oublie, mais il attend que nous lui rappelions, entre guillemets, ses promesses. Et alors, on pourra lui rappeler l'importance de ses promesses. En priant par exemple, « Seigneur, tu dis dans ta parole, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alors je te fais confiance, Seigneur. Tu feras justice dans ce monde et dans ma vie, parce que tu l'as promis. » Ce sont ces promesses qui vont nous aider à prier avec foi. Si notre prière s'appuie sur sa parole, et donc sur ses promesses, sur sa parole et sur sa volonté et non pas sur la nôtre, nous pouvons croire avec certitude que ce que nous disons en priant arrivera. Et le mot qui est cité ici, littéralement, c'est « viendra à l'existence ». Ça va exister. du néant, ça va arriver, ça va exister, par le fait d'avoir demandé à Dieu. Nous pouvons croire avec certitude que ce que nous avons demandé avant même de le voir. L'illustration du figuier, elle nous enseigne aussi que, nous pouvons faire comme Jésus. Ne pas maudire les hommes qui nous déçoivent, qui nous causent du tort, mais plutôt parler à nos problèmes comme à des montagnes et leur demander de se déplacer et de se jeter dans la mer. Montagne d'objets, montagne d'obstacles, montagne de circonstances qui nous causent du souci. On trouve cette attitude aussi chez le prophète Zacharie, que je cite, Zacharie 4, versets 6 et 7. Zacharie 4, versets 6 et 7. « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et verset 7. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. » Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. « Grâce, grâce pour elle !» La pierre principale, c'est Jésus. Zacharie s'est adressé à qui, là ? Qui es-tu, grande montagne ? Il s'adresse à la montagne. Il y a une première montagne d'obstacles qui est la plus grande, qui se dresse devant nous, qui se dresse entre nous et Dieu. C'est celui de notre péché. Et cette montagne-là, seule cette montagne qui nous séparait de Dieu, seul Jésus a pu l'enlever. Nous ne pouvons pas l'enlever nous-mêmes, cette montagne. Le nom Béthanie, c'était là où Jésus se retirait chaque soir durant la semaine sainte. Béthanie, c'est intéressant le sens de ce mot-là. Le nom Béthanie voulait dire la maison du pauvre, la maison du pauvre, de l'affligé, de l'humble. Jésus se retirait tous les soirs à Béthanie. Jésus était cet affligé, ce pauvre, cet humble, qui avait faim non seulement des figues, mais qui avait faim de la sanctification et de l'amour de son peuple et de tout un chacun. Selon le premier commandement que je vous rappelle. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ce que Dieu attend. Jésus avait faim de trouver cet amour chez son peuple. Non pas que, comme j'avais discuté une fois avec une ado, oui, mais Dieu, il a besoin qu'on l'aime. Non ! Non pas que Dieu ait besoin de quoi que ce soit ou de quelqu'un pour être heureux. Il se suffit à lui-même. Jésus n'était pas en train de mendier de l'amour pour lui-même, mais il voulait nous faire comprendre quelque chose. Parce qu'il nous aime tant, il voudrait qu'on comprenne que notre bonheur dépend de notre pardon et de notre attachement à lui. Notre bonheur, notre épanouissement, notre joie dépend de notre pardon et de notre attachement à lui. Lui n'a besoin de rien ni personne, mais il veut tellement partager cet amour avec nous. Bien qu'a-t-il fait ? Le pauvre, l'humble, l'affligé, Jésus, le propriétaire de tout, il nous a donné l'amour qu'il n'a pas trouvé en nous et qu'il attendait des hommes, en donnant sa vie sur la croix pour nous pardonner nos fautes et les jeter au fond de la mer. C'est écrit, hein, tu les jetteras au fond de la mer, nos fautes. La première montagne à enlever, donc, celle de nos péchés, que seul Jésus pouvait enlever. Les autres montagnes, nous pouvons les enlever. Considérons-nous donc comme des mendiants devant Dieu, des mendiants de son amour, de son pardon. Demandons-lui avec foi et dans la repentance. Et ce n'est qu'après avoir reçu son pardon que nous serons à même de pardonner aux autres. Quelqu'un qui n'a pas été pardonné par Dieu, ça sera très difficile pour lui de pardonner aux autres. Même impossible. Ce n'est qu'après avoir reçu son pardon que nous pourrons accorder ce pardon à ceux qui nous ont offensés. Parce que, en refusant d'accorder le pardon à quelqu'un, ça fait barrage entre nous et Dieu, qu'on soit chrétien ou pas. Le refus de pardonner est un obstacle à la prière. De même que le péché non confessé est aussi un obstacle. Un péché non confessé et non abandonné, ça fait obstacle à notre communion entre Dieu et nous. Entre notre Père et nous, parce que Dieu est notre Père. Alors si tu as du mal à pardonner à quelqu'un, Jésus nous donne ici la manière de faire. Si tu as du mal à pardonner à quelqu'un, tu peux parler à une montagne. Tu peux parler à cette montagne comme Jésus nous l'a enseigné. Montagne d'amertume qui m'empêche de pardonner, jette-toi dans la mer. Et vous savez, on peut identifier nos montagnes qui nous font la vie dure et leur demander de se jeter dans la mer. Pardonner sans attendre, n'attendons pas que le cœur soit disposé. Pardonner sans attendre d'en avoir envie, c'est un choix. C'est un choix qui libère, qui est libérateur. Quelques détails, quelques mots sur le pardon à autrui. C'est pas facile de pardonner quand on nous a fait du tort. Pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est possible quand on a reçu le pardon en Jésus. Pardonner à quelqu'un qui nous a offensés n'oblige pas à reprendre une relation avec quelqu'un de toxique, avec quelqu'un qui refuse de se repentir. Ça n'oblige pas à reprendre une relation. Pardonner ne signifie pas non plus, on en a parlé mercredi, c'était encore d'actualité, c'est toujours d'actualité, hein. Personne, pardonner ne signifie pas non plus ne rien dire, ni fermer les yeux sur l'offense. C'est pas ça non plus. Et le pardon, notre rôle, c'est de pardonner, et toutefois l'offenseur, il a sa responsabilité. Le pardon n'enlève pas la responsabilité de l'offenseur, mais notre pardon devrait l'aider à changer. Notre pardon devrait l'aider à changer. Après, c'est lui qui est responsable devant Dieu. Oui, on peut parler à nos montagnes pour leur demander de s'arracher, de se jeter dans la mer. Pas seulement nos montagnes d'amertume, mais nos montagnes de manque de pardon. On peut aussi parler à nos montagnes, eh bien, montagne d'incrédulité, jette-toi dans la mer. Montagne d'inquiétude, jette-toi dans la mer. Montagne de persécution, jette-toi dans la mer. Montagne de haine, jette-toi dans la mer. Montagne de jalousie, jette-toi dans la mer. Montagne de dette, jette-toi dans la mer. Montagne de rancune, jette-toi dans la mer. Montagne de stérilité, de manque de fruits, jette-toi dans la mer. Pour que je puisse enfin porter du fruit. Ces montagnes-là, elles se déracineront. Jésus nous l'a enseigné par l'illustration du figuier. Elles se déracineront de même que le figuier, il a séché jusque dans ses racines. En demandant à ces montagnes de se déraciner, elles se déracineront. Un enseignement sur la prière. Prière, c'est parler à Dieu, qui nous invite aussi à parler à nos montagnes, dans le sens de qu'elles s'en aillent. Alors, on l'a vu aujourd'hui, les fois d'avant, qui a cru en Jésus le Messie? Finalement, eh bien, ce sont les enfants et un mendiant aveugle qui avaient compris qu'il était Jésus. Parce qu'ils voyaient son cœur avec leur cœur. Ils voyaient avec les yeux de leur cœur. Et ils voyaient avec une foi toute simple qui pouvait déplacer des montagnes. Je vais prier. Seigneur, je te remercie car tu nous donnes ta parole et aide-nous, Seigneur, à t'imiter, Seigneur. Tu nous as montré, toi, tu es le parfait enseignant, Seigneur. Tu as vécu 3 ans avec tes apôtres, Seigneur. Tu les as enseignés et tu nous enseignes, nous aussi, qui voulons être, voilà, tes disciples. Seigneur, donne-nous vraiment de t'imiter, Seigneur. Tu nous as dit qu'on ferait des choses plus grandes que celles que tu as faites. Celles que nous ne pouvions pas faire, c'était, Seigneur, d'enlever nos péchés. Ça, seul toi, tu pouvais le faire. Par ta mort sur la croix et ta résurrection. Et merci, Seigneur, pour cette grâce. Aide-nous à être conscients de notre héritage. Tu t'es donné pour nous, Seigneur. Notre premier héritage, c'est toi. Et tu es là avec nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, oui, cette attitude de lever nos yeux vers toi, de tourner nos regards vers le Seigneur. Non pas de focaliser sur nos problèmes, mais sinon de leur demander de s'enlever, Seigneur. Au nom de Jésus, oui. Seigneur, merci parce que tu es là. Et je prie vraiment que chacun nous fassions l'expérience que Seigneur, que tu réponds à nos prières, pas de façon magique, mais simplement, Seigneur, tu en observant ta parole. Et tu connais les montagnes de chacun, Seigneur, celles qui sont exprimées, celles qui ne le sont pas. Que chacun, Seigneur, se débarrasse de sa montagne avec toi, Seigneur, avec toi, par ta parole. Et Seigneur, celles qui mettent du temps parfois à se déplacer, que Seigneur, nous persévérions. Bartimée a persévéré, Seigneur, il n'a pas lâché. Alors Seigneur, aide-nous à persévérer nous aussi, Seigneur, dans la foi. Et à proclamer tes promesses. Oui, Seigneur, augmente-nous la foi, Seigneur. Puisque tu dis, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre quand il reviendra ? Augmente-nous la foi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.